raisons. La première, c'est parce que c'est la première conférence en présentiel que je fais depuis 6 mois, donc ça a commencé à me manquer. Je suis ravi de voir des gens ailleurs que dans des télescopes. Et puis, ensuite, parce qu'effectivement, je suis très, très heureux et très honoré d'être invité par cette illustre aumônerie. Les aumôniers sont succédés en s'améliorant d'une génération à l'autre et atteignent, sinon un sommet, du moins un nadir avec l'abbé Urfès. Alors, bon, vous m'avez demandé de parler du quiétisme, apparemment dans une série sur les hérésies. Alors, je commence tout de suite en disant que le quiétisme n'a jamais été une hérésie. Mais je voulais peut-être commencer par m'interroger sur cette question de l'hérésie. Il y a un livre assez classique, désormais d'Alain Le Bouduec, qui a été caïmante grec longtemps à l'école, « La notion d'hérésie dans la littérature grecque, 2e-3e siècle », paru aux études augustiniennes, 700 pages, il y a une trentaine d'années. Il nous apprend surtout que c'était qu'au temps de Paul, division ou dissension entre des groupes divers devient progressivement hérésie doctrinale. Et alors il dit que c'est Justin qui, le premier, a inventé l'hérésie au sens où il est le premier témoin d'une description unifiante de l'erreur. Or, la norme crée l'erreur. Et par rapport à elle, la différence devient déviation. Il n'y a d'hérésie que lorsque on parle d'orthodoxie, et l'orthodoxie s'est créée lentement comme corps doctrinal dans la tradition ecclésiastique. Alors, l'hérésie a un statut qui est lié à celui du christianisme. On parle d'hérésie dans le judaïsme ou dans l'islam à partir d'une historiographie chrétienne. Et donc l'hérésie est un produit du christianisme au sens où elle n'est plus une attaque venue du dehors, mais un tournant intime, le scandale d'un trouble irréductible à l'intérieur du christianisme. Et c'est un concept chrétien, donc les procédés d'exclusion, le christianisme n'en a pas le monopole, mais l'appellation de choix, le choix, l'hérésie, est quelque chose qui est assez typiquement chrétienne. Alors on s'est demandé l'origine, pourquoi est-ce que le christianisme a produit des hérésies. Alors il y a deux séries d'explications. La première, c'est que il y a un exclusivisme théologique qui conduit à proposer des énoncés canoniques et donc à exclure ceux qui n'entrent pas dans ces énoncés canoniques. Ça, c'est Justin, ça c'est assez clair chez Justin. Mais l'autre explication est liée à la naissance au foisonnement des doctrines gnostiques. L'agnosticisme, bon et mauvais, le grand texte d'Irénée, c'est contre la fausse gnose, la mauvaise gnose. La gnosis est un terme typiquement joannique. L'idée, c'est que c'était le foisonnement de ces modes divers de connaissance qui a entraîné l'effort de singulariser une orthodoxie, une juste connaissance. Ça, Irénée, si vous voulez. L'objection à cette deuxième explication, c'est qu'il semblerait que la notion d'hérésie peut exister avant l'efflorescence des gnoses. Mais je tenais à rappeler ça, parce que l'hérésie est une caractéristique chrétienne, pour dire ça. Alors, maintenant, venons-en au sujet d'aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, alors, bibliographie préalable, elle est énorme, mais je renverrai à l'article « Quiétisme » du Dictionnaire de spiritualité, qui est l'œuvre d'Eulogio Pacho du côté espagnol et Jacques Lebrun du côté français. Et puis j'ai écrit un article quiétisme dans l'encyclopédie catholicisme, et puis un que sais-je, qui n'est pas la meilleure chose que j'ai écrite, il y a, qui a dû paraître en 72, mais qui est encyclopédique sur le principe du que sais-je, encyclopédique sur le quiétisme. Je n'ai pas voulu le republier, je ne le réécrirai pas comme ça. Le dernier état de ma pensée, c'est plutôt l'article quiétisme de catholicisme. En effet, je vais revenir à la fin sur le pourquoi le quiétisme n'a jamais été considéré comme une hérésie, n'a jamais été taxé de la proposition hérétique. Mais en fait, nous sommes dans le domaine de ce qu'on appelle à tort la spiritualité, ce qu'on appelle la mystique, mais c'est un mot qui est difficile à définir. Il y a un très bon séminaire qui se déroule à Nanterre et à la Sorbonne sur la mystique depuis 4 ou 5 ans, qui va s'achever cette année, pour essayer de voir ce qu'on entend, au moins dans le christianisme, par ce terme. Est-ce que ce terme, d'ailleurs, n'est pas commun à plusieurs types de religions, etc. C'est dans ce domaine-là, disons, c'est dans ce domaine-là, plus que dans le domaine christologique ou ecclésiologique, bon, c'est dans le domaine de la mystique, de la prière, de ces choses-là. Alors, tout simplement pour dire qu'il y a eu dans le christianisme, depuis les origines, deux voies, une voie plus ascétique et une voie plus mystique, avec des guillemets autour des adjectifs. Alors, une voie plus ascétique qui procède par qui est discursive, on dit aussi, qui procède par étapes successives dans la prière, dans la méditation active, et d'autre part une voie qu'on peut appeler mystique, en tout cas qui conduit à un dépouillement passif, qui n'est pas une voie ascétique, active, discursive, et qui est une voie plus passive. Et il y a toujours eu ces deux écoles à l'intérieur de ce qu'on peut appeler la spiritualité, j'aime pas beaucoup le mot, chrétienne. Alors, pour en venir un peu à l'époque qui est la mienne, il faut dire que l'importance des écrits de Denis l'Areopagite, importance d'abord liée aux écrits eux-mêmes, et puis aussi à la légende, ce serait des compagnons de saint Paul, etc. Ces textes, écrits en grec, traduits très tôt en latin, traduits en français en 1608, ont eu une grande importance pour ces questions, puisque cet écrivain syriaque du VIe siècle propose une voie d'accès négative aux attributs divins. De Dieu, on ne peut dire que ce qu'il n'est pas. Donc nous sommes là bien dans un procédé qui est à l'antipode d'une démarche discursive de la connaissance de Dieu et de se rapprocher de la connaissance de Dieu. Alors, Denis l'Areopagite, ce n'est pas lui qui a commencé ça. On trouve déjà chez Clément d'Alexandrie, c'est vers 280, on trouve déjà démarche d'une connaissance qui n'est pas une connaissance acquise, mais qui est une connaissance infuse, une connaissance donnée par Dieu de l'intérieur. Alors il faut lier cela. Moi, c'est ce que je fais, en tout cas, sans tomber dans une sociologie un peu à la boule de gomme. Il faut lier cela à la montée de la piété des laïcs, pour des tas de raisons. C'était déterminant lorsque les laïcs ont voulu voir l'hostie, lorsque la petite élévation, comme on dit, a été créée au moment de la consécration, pour montrer aux fidèles l'hostie et le calice. Ça veut dire que les fidèles interviennent, que la célébration de la messe n'est plus seulement l'affaire d'un prêtre qui fait sa petite cuisine sur son autel, mais à partir du moment où on montre aux fidèles, alors ça, du moins dans la liturgie latine, dans les liturgies orientales, il y a les rideaux, donc ça, c'est plus simple. Mais dans la liturgie latine, à partir du moment où on élève l'hostie, on la montre aux fidèles, ça veut dire que les fidèles interviennent quand même, dans la, d'une manière ou d'une autre, dans la célébration. Et donc il y a ce renouveau des fidèles, cette place, je ne dirais pas cette place croissante des fidèles dans la liturgie, je dirais cette place croissante des fidèles dans une réflexion sur la prière. Et d'une certaine manière, d'ailleurs, l'extension par les dominicains de la prière du rosaire, prière typique des laïcs, est une manière déjà, la méditation des mystères du rosaire est une manière de faire entrer les laïcs dans une démarche de piété. Et cette démarche de piété s'est trouvée, à partir du XIVe siècle, confortée par ce qu'on appelle la Venusmystik, la mystique de l'essence, qui est un effort, alors on peut là encore l'expliquer par un certain nombre de raisons, un effort de connaître la divinité, non pas en termes positifs, dans une démarche progressive, discursive, mais en termes de recevoir la divinité, et non pas seulement d'atteindre les attributs de la divinité, mais d'accéder à l'essence même de Dieu. Alors, nous sommes là dans des domaines glissants. Vous vous rendez bien compte, évidemment, que le passage du chapelet à la mystique de l'essence, il y a des risques au passage qui sont courus, et l'Église, la hiérarchie, s'est inquiétée de plusieurs choses, de cette piété féminine. C'est toujours dangereux quand les femmes se mettent à prier pour l'Église. De cette piété féminine, de cette assertion que des simples laïcs, en vertu de leur baptême, puissent avoir un rapport à la divinité sans passer par l'intercession des saints, bien sûr, de la Vierge Marie, et l'intercession du clergé. Ce qui fait que on a commencé par s'inquiéter de ces illuminés. Donc au XVIe siècle, un peu partout, Luther les appelle enthousiastes. En Espagne, on les appelle alumbrados, de ces gens qui prétendaient avoir une vie de foi, une vie de piété, qui ne passait pas immédiatement par le relais des prières traditionnelles, des prières de l'intercession des saints et de l'intercession du clergé. Alors, les accusations fourmillent. Ignace de Loyola est accusé d'illuminisme. C'est en Espagne, donc l'alumbrismo se déploie et des cercles d'hommes et de femmes, surtout de femmes, se réunissent pour prier ensemble. Bon, tout ça, c'est pas bien, ça passe pas par la hiérarchie. Et donc, ça aboutit en 1623 à un moment important, l'édit de Séville contre les alumbrados. Voilà. Et ça, c'est une première pierre miliaire, je dirais, de la naissance du quiétisme. Alors, j'en arrive à ma petite affaire, c'est que les mots en isme sont des termes polémiques. On est toujours l'isme de quelqu'un. Hein? Alors, fascisme, communisme, bolchevisme, voilà. Et alors, jansénisme, quiétisme, calvinisme, luthéranisme. Bon, on est toujours en isme, l'isme de quelqu'un. Et le passage à l'isme, si j'ose dire, c'est un passage toujours polémique. Il y a une construction polémique. Le calvinisme, il y a une construction polémique du calvinisme qui va bien au-delà de ce que Jean Calvin ou les siens proposent. Le luthéranisme, il y a une conception du luthéranisme qui va bien au-delà de ce que Martin Luther ses disciples proposent. Et donc, je crois que c'est très important de voir que les hérésies ont le plus souvent été construites, ce sont des constructions sous le biais de l'accusation. Et l'accusation va accumuler évidemment des griefs et construire très souvent des monstres théologiques qui n'ont pas ou peu été soutenus par les gens qu'on accuse. Hein. L'expression même de quiétisme apparaît. C'est un auteur anglican, Burnett, qui associe le quiétisme a des formes de l'oraison de quiétude. Donc, Thérèse Avila sera accusée de quiétisme. En 1687, Burnet écrit « Les moines », alors c'est un anglican qui lutte contre les moines, « crurent que pour prévenir de si grands malheurs, leur abandon par leurs dirigés au profit des nouveaux contemplatifs, il fallait en faire regarder la cause avec horreur et noircir ce parti de l'infâme nom d'hérésie. Ce dessein étant conçu, on s'appliqua d'abord à donner un nom à la nouvelle hérésie, l'appela quiétisme, par rapport à l'oraison de quiétude ou de repos que les disciples de Molinos pratiquaient. » Alors, trois textes permettent de comprendre, trois étapes, l'origine et l'évolution de ce concept polémique. Trois textes. Le rapport Albizzi, je vais y revenir, 1682, la bulle Celestis Pastor de 87 et le bref Cum Alias de 99. Dans les trois cas, il s'agit de documents romains qui ont l'intérêt de reposer sur des enquêtes de procédure. Et j'ai beaucoup travaillé dans les archives du Saint-Office. On m'a accusé d'être un suppôt de l'Inquisition, mais simplement parce que, pour deux raisons, d'abord, les censeurs du Saint-Office n'étaient pas tous des ânes bâtés, des idiots, etc. C'était des gens intelligents qui avaient leur propre philosophie, leur propre théologie, et qui lisaient effectivement les bouquins qu'on leur proposait et qui pointaient ce qu'ils voyaient, ce qui était, et qui pointaient les nouveautés. J'ai étudié de près les censures de Descartes par le Saint-Office, et c'est très intéressant parce que ce sont effectivement les nouveautés apportées par Descartes qui sont pointées. Donc ces gens-là ont bien lu les œuvres de Descartes, ils ont pointé les nouveautés. Alors, ils ont pointé en disant « c'est très mal, mais ça, c'est autre chose ». Mais en tout cas, ils les ont lus, ils les ont vus. Ils ont lu Malebranche, ils ont vu ce qu'il y avait de nouveau, d'intéressant, d'inédit chez Malebranche. Vous voyez, ça me paraît la première chose. La deuxième chose est que les procédures romaines étaient des procédures extrêmement, je dirais pas en avance, mais différentes, disons, des procédures civiles. Les procédures civiles étaient plutôt brutales, disons-le. Les procédures romaines passaient par des textes écrits, passaient par des enquêtes. Alors, on s'étonne parfois du temps qu'il fallait pour avoir une condamnation. Il fallait 15 ans pour arriver, parce qu'il y avait un premier rapport, un deuxième rapport, un troisième rapport. Et moi, j'ai travaillé pendant des années dans les archives du Saint-Office. Et bien sûr, alors, tel bouquin était porté à la connaissance du révérend Père Machin en 1644. En 1648, il a rendu son rapport. Enfin. Et en 1652, la commission l'a examiné. L'auteur était mort déjà depuis 3 ans. Mais, bon, et là, on constate que l'auteur est mort et on s'arrête. C'est quand même très souvent le cas. Il faut bien voir que dans cette masse de documents, La machine est une machine très, très encadrée par des procédures très encadrées. Alors, comme toute procédure, on peut les critiquer, bien sûr, mais simplement, je veux dire que par rapport aux procédures civiles du temps, alors, j'habite Main-sur-Loire. Main-sur-Loire, vous connaissez ça à cause de l'inspecteur Maigret, à cause du début des Trois Mousquetaires et à cause d'Armogat. Mais Main-sur-Loire, c'est aussi l'endroit où François Villon a été arrêté et emprisonné. Or, il a volé à Bâcon, là où j'ai célébré la messe dimanche dernier, il a fait un vol sacrilège. Il a volé un calice, un ciboire. Heureusement pour lui, car eût-il volé une poule, on l'aurait pendu. Comme il a volé un calice ou un ciboire, on l'a envoyé à la justice de l'évêque et on l'a condamné à la prison à vie. La prison à vie, vous me direz, c'est pas marrant, mais c'est peut-être mieux que d'être pendu illico, d'autant plus que le bon roi Louis XI, le saint roi Louis XI, venant en pèlerinage à Notre-Dame de Cléry, a libéré les prisonniers, ça arrivait tous les 34 ans, donc la prison à vie. Alors, c'était pas marrant, je veux pas dire que c'était une partie de plaisir, mais ce que je veux dire, c'est que la justice ecclésiastique était préférable à la justice civile. Voilà, et encore une fois, il aurait volé un poulet, on l'aurait pendu sur le champ, il a volé un calice, alors une procédure, immédiatement, un sacrilège, etc. Est-ce qu'il y avait des hosties? C'était un ciboire, il y avait des hosties, c'était consacré, etc. Il a fallu des experts, tout ça. Et puis, conclusion, le prison à vie, parce que c'était un sacrilège. Bon. Mais, donc, les procédures, je ne fais pas l'éloge, toutes les procédures judiciaires sont des procédures pénibles de toute façon, mais simplement, il faut rappeler que donc les trois documents que nous avons sont les documents romains qui sont des documents de procédure. Ça, c'est l'avantage. Alors, l'inconvénient quand même, l'inconvénient, ce sont des textes de suspicion et de condamnation. Ça, c'est l'inconvénient. Quand il y a une enquête, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut dire qu'il y a des délations, delatores, c'est le terme officiel, des dénonciations, on dirait aujourd'hui, mais maintenant, d'habitude, les délations, c'est très à la mode en France, mais il y a des délations, donc il faut les consulteurs, en tout cas dans la période que je connais, étaient très soucieux de voir s'il n'y avait pas des conflits d'intérêts, et ils interrogeaient, on interrogeait les voisins, est-ce que le délateur, est-ce que celui qui l'accuse ne lui a-t-il pas causé des torts, etc. Il y avait un... Bon, ils étaient très procéduriers, c'est pour ça qu'il y a des centaines de mètres linéaires de documents dans les archives. Et alors, donc, avantages sont des procédures, donc il y a les documents, inconvénients, suspicion, condamnation. Mais ces trois documents, donc Albizzi, Celestis Pastor et Cum Alias, ont eu un grand résonnement à travers l'Europe. Alors, je commence par la scrittura du cardinal degli Albizzi. Elle date de 1682 et elle retrace... Pourquoi est-ce que je dis que ces trois choses sont trois choses différentes, trois cas différents. Il n'y a jamais un quiétisme comme tel. Il y a trois foyers différents. Le premier, la scriture de Del Albizzi. 1682, ce sont des mouvements spirituels suspects en Italie depuis 1655. Donc ça fait 30 ans que ça a duré, il a fallu du temps. Alors ce sont des pratiques nouvelles qui mélangent, et ça c'est classique dans les archives du Saint-Office, des comportements de type charismatique, nouveaux, et des comportements immoraux. Et malheureusement, l'actualité depuis quelques années montre que dans l'Église catholique, ça continue. Vous voyez, des personnalités charismatiques qui se retrouvent à avoir des comportements licencieux et tout à fait condamnables. Alors, le premier document rapporté par le cardinal Albizzi, c'est une lettre du nonce à Venise, Carlo Carafa, de 1655. Il y dénonce un laïc milanais qui, après avoir résidé à Venise, s'est établi dans la Val Calmonica, près de Brescia, et c'est un exposé vague, mais il ressort de l'accusation qu'il substitue la seule oraison mentale aux sacrements et aux pratiques de l'Église. C'est pas très clair ce qu'on lui reproche. Puis ensuite, en 1771, dans le Piémont, on dénonce un médecin français, dont on ne sait pas très bien le nom, Girardi ou Grignard, qui enseigne et pratique, je cite, une nouvelle manière de faire oraison, qui lui avait été enseignée par une religieuse ursuline. Alors le petit manuscrit de la religieuse fut examiné par le Saint-Office, il fut publié en italien, et puis il fut interdit après cela, quelques années plus tard. Mais ce foyer s'est étendu en Piémont et en Ligurie. Et c'est à ce moment-là que le cardinal degli Albizzi s'est occupé d'écrire et d'accuser cet ensemble de mouvements et s'en est resté là. Voilà. Donc en 1682, il y a la scriture de degli Albizzi, qui est une enquête, si vous voulez, où il dit qu'il y a des mouvements spirituels bizarres qui se produisent. Voilà. Alors, c'est toujours très difficile, j'ai lu ça, c'est de scriture, très difficile de savoir exactement de quoi il s'agissait. Il dit, il y a tel endroit, il y a tel machin. Alors, ce sont des gens qui prient d'une manière nouvelle, différente. Alors, on est toujours inquiet, qu'est-ce qui se passe? Alors, autant plus que là, on est au nord de l'Italie, donc il peut y avoir des influences vaudoises. On soupçonne qu'il y a des protestants qui peuvent apparaître par derrière. Ces gens-là qui veulent prier tout seuls, ils se réunissent entre eux sans prêtre. Alors, ça c'est protestant, ça, tout de suite. Oui, donc, il faut... Ça en reste là, et ça va se confondre avec le deuxième mouvement, le plus important, celui de Miguel de Molinos. Voilà. Alors, 1685, juillet 85, 18 juillet, coup de tonnerre à Rome, on a arrêté le père Molinos. Voilà. Alors, coup de tonnerre à Rome, et le monde dévot est étonné, ça faisait 20 ans qu'il était là, et ce prêtre espagnol, âgé de 57 ans, avait une réputation de gourou, et il était sorti indemne des remous du rapport d'Eli Albizzi, et il a même... la campagne contre ces formes nouvelles de spiritualité, c'était les gens qui ont eu le plus à se le reprocher, c'est-à-dire les jésuites. Ce sont eux qui, forts de leur principe d'une spiritualité ascétique et discursive, les exercices, ne pouvaient pas tolérer qu'il y ait d'autres formes de prière que la leur. Problème, c'est que les deux accusateurs jésuites ont été mis à l'index, parce que précisément, cet exclusivisme de leur propre spiritualité n'était absolument pas reçu par les cardinaux de l'époque et par la hiérarchie du Saint-Office. Donc en 81, Segneri et Bell'Uomo, deux pères jésuites qui avaient lancé un peu un mouvement contre les nouvelles spiritualités, ils se sont fait mettre à l'index. Alors, dix ans plus tôt, Bolinos avait publié un grand livre qui s'appelle « La guide spirituelle », 1675, qui avait connu trois éditions en espagnol, plusieurs traductions, et c'était un écrit nouveau pour une double nouveauté. Premièrement, il insistait sur la pratique de l'oraison plus que sur les sacrements. Et il disait, la vie chrétienne, c'est d'abord la vie de prière. Alors ça, c'était un peu nouveau. D'abord, la vie chrétienne, c'était la pratique des sacrements. Lui, alors, il ne disait pas le contraire, mais il disait, le principe de la vie chrétienne, c'est la prière. Et deuxième point, pour vaincre les tentations, il proposait un moyen court, comme il disait, on va retrouver l'expression chez Jeanne Guyon, un moyen court pour approcher le mystère divin. Donc il ne faut pas s'embarrasser de méthodes d'oraison, il faut de façon passive s'offrir à l'action de l'Esprit-Saint. Et alors je dirais que lorsque dans les débuts que j'ai bien connu, ce qu'on appelle le mouvement charismatique en France, pour faire vite, c'était certainement un des problèmes qui se posait, l'occasion d'en parler, d'en traiter, sur que signifiaient l'effusion de l'esprit. On a retrouvé des choses, j'ai retrouvé en tout cas des choses que je connaissais depuis quelques siècles. Alors, pourtant, cette dévotion essentielle n'était pas oisive, non plus que dans les nouvelles communautés du renouveau. C'est l'Esprit-Saint qui opère, et c'est une redécouverte de l'Esprit-Saint, comme dans les communautés du renouveau. Ce n'était pas quelque chose de simplement passif, c'est une action de l'Esprit qui opère dans l'âme et qui fait des opérations spirituelles, très simples, très intimes, le but étant de transformer le cœur en carte blanche pour que Dieu puisse y écrire. Alors, là, tout le problème, au XVIIe siècle comme au XXe, c'est celui des tentations. Quel est le statut des tentations? Eh bien, Molinos dit, et moi ça me paraît assez juste, la plus grande des tentations, c'est de ne pas en avoir. Et il explique que la sensibilité spirituelle rencontre les tentations, et que la tentation, c'est un signe de croissance spirituelle. Si on n'a aucune tentation, ça veut dire qu'on a la spiritualité, l'escargot. Mais les tentations, c'est précisément... Ce n'est pas y céder allègrement, mais les tentations, les épreuves, sont précisément le bon chemin de la vie spirituelle. Et Molinos, et là ça a été son tort, attaque de front les méthodes discursives, les exercices spirituels, et prône une application d'esprit dans la foi pure, qui est la seule voie sainte, pieuse, prompte et instantanée de la dévotion. Ça ne plaisait pas à d'autres. Et enfin, pour les âmes intérieures, comme il dit, il écarte toute préparation actuelle à la communion, disant « leur vie tout entière est une préparation perpétuelle et parfaite ». Alors, je dirais, simplification, exagération, imprudence, la guide ne se présente pas comme une synthèse spirituelle, ce n'est pas un traité d'oraison. La guide tient beaucoup à la personnalité de son auteur, qui était un directeur de conscience. Et la guide se présente plutôt comme un petit traité pratique de directeur de conscience que comme un traité synthétique de la vie spirituelle. Et le Saint-Office n'a pas eu de peine à extraire des propositions dangereuses de ce texte. Et Molinos a eu le tort de vouloir rédiger et croire qu'il présentait en système une spiritualité personnelle qui, dans le fond, n'était pas très nouvelle par rapport à ce qu'on connaissait déjà au XIVe et au XVe siècle. 2 années de procès, 70 témoins entendus, des milliers de pièces. Le procès de Molinos fait à peu près 2,50 m dans les archives du Saint-Office. Toute la correspondance considérable entretenue par Molinos, et on extrait de la guide et de sa correspondance et de ses sermons 250 propositions, et le décret final en retient 63, et c'est donc la bulle Coelestis Pastor de 1687. Et la sentence précise l'origine des propositions, en premier de paroles, d'écrits de Molinos, reconnues comme dictées par lui, communiquées par lui. Il y a aussi des mémoranda qu'il avait fait circuler à Rome. Il avait le tort de donner des instructions écrites à ses protégés sur la manière de prier. Donc tout ça a été recueilli dans les archives du Saint-Office. Et quand on lit ça, un des mots les plus fréquents, c'est « resignatio ». Il appelle la personne qu'il dirige à la résignation. N'essayez pas de devenir à tout prix de bon chrétien, mais laissez l'Esprit Saint vous envahir, restez dans la pauvreté, restez dans l'humilité et laissez l'Esprit Saint faire le travail en vous. Alors, il y a sur ces 63 propositions, il y en a 4 qui sont, à mon avis, il y en a 4 qui sont les plus dangereuses, qui sont des propositions de type canonique, où il écrit, disons, qu'il n'y a pas de jugement ecclésiastique sur le fort interne. Et donc, il dit aux fidèles, si votre curé vous dit ça, ben ne l'écoutez pas. Alors ça, il ne faut jamais écrire ça. Alors, on peut le dire, mais jamais l'écrire. Alors, ce catalogue ne permet pas pour autant de dégager une synthèse doctrinale précise. Alors, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de lettres même de Molinos. On a ses écrits, ses mémoranda qu'il donnait. Et moi, ce que j'en ai lu, il est difficile de faire une synthèse. Ça me paraît extrêmement confus, mais j'essaierai de ramener ça à 3 groupes de doctrines. Mais encore une fois, c'est un ensemble un peu confus. On peut dire que ce bon espagnol n'avait pas un esprit de synthèse. Ce n'était pas Ignace de Loyola. Il n'avait pas un esprit de synthèse, et la lecture de ces milliers de pages donne l'impression d'une certaine confusion d'esprit. Alors, moi, j'ai repéré 3 groupes. On peut ramener ça à 3 groupes. Premièrement, des propositions spirituelles classiques qu'on trouve déjà au XIVe, XVe siècle, mais parfois exprimées de manière un peu radicale, de manière maladroite. Deuxièmement, des propositions condamnables, mais qui ne semblent pas cohérentes avec le reste de l'enseignement de Molinos. Ce sont des sortes d'îlots qui apparaissent dans ces textes, qui sont tout à fait condamnables, mais qui ne sont mineurs par rapport à la masse de l'enseignement de Molinos. Et enfin, celles qu'il a vraiment enseignées, qui sont les plus originales, qu'on retrouve dans ses écrits, il y défend l'amour pur, l'abandon à Dieu. Alors, avec une phrase, évidemment, qui, telle qu'elle, est tout à fait condamnable, « Si la nature est troublée, il faut la laisser troubler, car c'est la nature. » Donc, une position anti-ascétique, qui, comme telle... Alors, le problème de toutes ces affaires, c'est que « Donnez-moi une ligne d'un homme et je le fais pendre. » Enfin, donc, le problème de toutes ces affaires doctrinales, je sais si j'en ai étudié, c'est qu'on extrait une ligne où on résume un paragraphe, et évidemment, quand on cherche l'erreur, on peut la trouver. Moi, je me suis amusé avec certains collègues du Saint-Office à prendre des encycliques, par exemple, comme ça, et alors sortir une phrase, qu'en pensez-vous ? Ah, horreur ! Ah oui, le problème, c'est Pie XII qui a écrit ça. Bon, vous voyez. Donc, c'est un petit jeu, bon, mais c'est assez facile à faire. On peut couper une phrase, tac, tac, et puis à sortir. Que pensez-vous de ça? Alors, évidemment, si le malheureux Pie XII, on peut penser, mais aussi, bon, alors on coupe le mais aussi, on laisse la première partie, et ça devient incomplet, inachevé, etc., inabouti. Alors, l'état continu de contemplation, par exemple, la non-nécessité de réitérer l'acte de foi. Et puis enfin, surtout, et ça c'est quand même un des points faibles de cet ensemble spirituel, minorer les œuvres extérieures. Bon, disons, c'est très bien d'être la charité, les pauvres, etc., mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de vous laisser envahir par l'Esprit-Saint. Du reste, si les mouvements des communautés nouvelles ont été si importants, mais je pense aux origines de la Fidesco pour l'Emmanuel, c'est précisément parce que la grande discussion le fondateur d'Emmanuel, qui est bien connu, insistait là-dessus. L'Esprit-Saint se manifeste aussi dans les œuvres, dans la charité. Et donc, il ne faut pas se contenter, ce qui était le cas très souvent, en particulier dans les milieux pentecostaux américains, de se contenter d'activités de prière, on se réunit, on prie ensemble, tout ça. Bon, mais il faut aussi pouvoir servir la soupe, faire de la coopération, aider les pauvres, etc., être au service des autres. L'importance que les nouvelles communautés ont accordée au service d'autrui est liée à ce souci de bien montrer que la prière n'est fertile, n'est féconde que si elle débouche sur des actions, sur des œuvres, etc., et de ne pas se contenter seulement de la prière pour conduire les âmes à l'oraison. Alors, le procès de Molinos, qui a duré 3 ans, a suscité de grandes interrogations à travers toute l'Europe. Leibniz écrit en mars 88 qu'il a trouvé des expressions dans la Guida Spirituale qu'il n'approuve pas, quoiqu'elle se trouve dans quelques auteurs mystiques. Et il s'inquiète pourtant de la diffusion en France de l'accusation. Il écrit à Antoine Arnauld, « Je suis disposé à croire qu'on se sert du nom et du prétexte du quiétisme pour maltraiter les personnes de bonne vie qui tâchent de se retirer des vanités du monde et de se recueillir en elles-mêmes. » Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous allons voir dans la troisième période comment, avec Jeanne Guyon, avec Fénelon, le problème a été aussi le décalage, le décrochage par rapport à ce qu'était la vie de cour, vie de piété, mais aussi vie mondaine. Et donc si Madame de Maintenon s'est inquiétée pour Saint-Cyr de la présence de Jeanne Guyon, c'est parce qu'elle elle prenait un retrait du monde qui n'était pas à l'ordre du jour de la monarchie, y compris de la monarchie dévote des années 98-1715. Alors, la campagne antiquiétiste se déchaîne et elle entraîne, à ce moment-là, la condamnation d'ouvrages, juste alors réputés inoffensifs. Le Chrétien intérieur de Bernard de Louvigny, La règle de perfection de Bonnat Canfeld, un livre capital du début du XVIIe siècle, qui a le livre de chevet de François de Sales, de Jeanne de Chantal, qui a inspiré la grande piété du XVIIe siècle, qui est mis à l'index. La règle des associés de l'enfance de Dieu de Jeanne Guyon, La lettre d'un serviteur de Dieu de Falconi, et également, à la même époque, 87, un monument, une somme antiquiétiste du père Segneri, qui avait été condamné quelques années plus tôt, qui remonte à l'assaut avec une sorte de grande somme antiquiétiste où il se vante d'avoir éviscéré, étripé, svischerato, étripé les quiétistes. Et il défend, lui, une spiritualité de type ignatien, évidemment. Alors, voilà où on en est, le molinosisme, à ne pas confondre avec le molinisme, hein, Molina d'un côté, ça c'est les jésuites, fin 16e, et molinosisme, c'est molinos, ça c'est le quiétisme, fin 17e. Bon, donc le molinosisme, se conclut sur la condamnation de Molinos, qui reconnaît d'ailleurs qu'il a parfaitement tort, et tout finit très bien, si j'ose dire. Alors ensuite, la partie qui concerne beaucoup les Français, disons, c'est ce qui va conduire au bref cum alias et à la condamnation des Maximes des Saints de Fénelon. Alors, la rencontre en 88-89 d'une jeune veuve dévote, Jeanne Guyon, avec un jeune et brillant abbé Fénelon, bientôt précepteur du duc de Bourgogne, le petit-fils du roi, fut décisive pour les développements français. Jeanne avait rédigé en 81-82 un traité spirituel, Les Torrents, qui n'avait jamais été condamné, sauf sur des copies manuscrites par Godet des Marais, l'évêque de Chartres. Le livre des Torrents contient l'essentiel de la doctrine de Jeanne Guyon. La vie spirituelle culmine sur l'union essentielle, un état de foi nue dans lequel Dieu intervient sans médiation physique. Je cite, « L'âme réduite au néant y doit demeurer sans vouloir, lorsqu'elle est, sans vouloir substantif, lorsqu'elle est poussière, pardon, sans vouloir lorsqu'elle est poussière sortir de cet état, pardon, ni comme autrefois désirer de revivre, il faut qu'elle demeure comme ce qui n'est plus. » Alors, Jeanne Guyon, on a beaucoup jasé sur Jeanne Guyon. Bossuet, maniant le latin, l'a dénoncé à Rome comme l'amica de Fénelon. Et le latin amica, bon, voilà. Mais c'est certainement une personne qui a eu une grande expérience spirituelle et elle l'a montré à la fin de sa vie. Elle s'est retirée à Blois où elle avait un cercle autour d'elle. Extrêmement important. Elle a eu un rôle de direction spirituelle, comme beaucoup de femmes l'ont eu au cours de l'histoire, et en particulier au XVIIe siècle, très considérable. Et les Torrents, donc, qui est le texte essentiel, n'ont jamais été condamnés. Et elle fait part de son expérience. J'ai beaucoup étudié Jeanne Guyon jadis. Elle fait part de son expérience et dans ce qu'elle décrit, on retrouve les expériences des mystiques, qu'il s'agisse de Catherine de Sienne, qu'il s'agisse d'Angèle de Foligne. On retrouve ce même type d'expérience personnelle. L'effort pour atteindre Dieu. Alors, évidemment, c'est là que Bossuet avait la partie facile. Jeanne Guyon manquait du vocabulaire spirituel, même si elle avait fait de bonnes lectures, mais elle manquait Dieu. Donc, elle explique qu'il s'agit de retrouver Dieu comme il était avant la création. Alors, expression bizarre, mais on comprend qu'elle veut dire que c'est aller au-delà de tout le monde créé, de le monde visible, et de retrouver Dieu dans le dessein créateur qui était le sien avant qu'il passe à la création. Et alors, elle insiste, elle a été accusée de manquer de foi au Christ, elle insiste en disant que l'âme nue n'a plus d'autre vertu que celle du Christ. Un dépouillement, mais qui est un dépouillement christique. Sur la règle de perfection de Benoît de Cranfeld, on oublie toujours la dernière partie qui est un traité de la passion. Alors, qui n'a pas été rajouté, bon, c'est une autre question. Mais il ne faut pas dire qu'il y a une disparition du Christ dans ce type de spiritualité. Mais il est certain qu'au-delà. Ce qu'ils reprochaient à la piété de leur temps, c'était de s'arrêter à la personne humaine du Christ. Et ils s'efforçaient, dans la personne humaine du Christ, de retrouver la personne divine. Et au-delà d'une piété, je dirais, christolatrique, ils s'efforçaient de retrouver le Verbe divin, qui est aussi présent dans la personne humano-divine de Jésus, vous voyez. Alors tout ça, c'est très difficile à exprimer par des mots, et il est facile de se faire piéger, évidemment. Alors, elle, comme d'autres, en particulier comme Adrienne von Speyer au XXe siècle, elle a commenté toute l'écriture, voilà, 20 volumes de commentaires de l'Écriture. Adrienne l'a battue, elle a 45 volumes. Elle a commenté toute l'Écriture de la Genèse à l'Apocalypse. Et je dois dire que ces commentaires, je ne les ai pas tous lus, hein, mais ceux que j'ai eu l'occasion de lire, parce que il y a une fois par an, une journée d'histoire de l'exégèse à Strasbourg et à Paris, et chaque fois, j'en ai profité, on analyse un logion, Ancien Testament une fois, Nouveau Testament l'autre fois, de voir ce que Jeanne Guyon en disait, et c'est souvent très beau. Alors, ce n'est pas de l'exégèse critique, hein, mais c'est la lecture d'une âme attentive aux vérités divines, comme le fut Adrien von Speyer, comme le fut Marthe Robin, voilà. Donc, je crois que c'est tout à fait essentiel. Et donc, ces 20 volumes ont été publiés entre 1711 et 1719. Et alors, surtout, là, ça a été en 87, elle a éprouvé le besoin de publier le moyen court. Moyen court est très facile pour l'oraison, qui est une sorte d'adaptation, de manuel des torrents. Alors, autant les torrents sont un texte, à mon sens, irréprochable, autant le moyen court est un texte discutable, parce que dès qu'on passe à la pratique de la prière, à ce qu'il faut faire, on patauge un peu. Et donc, il est clair que ce texte a vite été raflé dans la répression anti-molinosiste et dans la vague de répression qui suivit la condamnation de Molinos en 89-90, le moyen court a été mis à l'index. Et alors j'ajoute aussi que une expérience spirituelle authentique se mêle chez elle, mais comme chez beaucoup de personnalités de ce genre, un état de fréquente maladie. Et sa vie, écrite par elle-même, qui est un très beau texte, témoigne de l'importance du corps dans la souffrance comme dans les noces physiques. Des choses qui, évidemment, surtout écrites en français, à la fin du XVIIe siècle, « Je me sens grosse du Verbe de Dieu ah, !»« Non, Bossuet s'esclave !» Bon, mais lorsque Catherine de Sienne le disait, ça passait, quoi, voilà. Les noces mystiques, elle décrit ces noces mystiques, bon, lorsque c'était Catherine de Sienne, ça passait difficilement, il faut bien le dire, et heureusement qu'il y avait son bon confesseur dominicain qui a un peu limé les choses, mais quand c'est à la fin du XVIIe siècle, en français, ça détonne un peu dans ce qu'on aurait appelé la belle ordonnance de la piété classique. Alors Fénelon, c'est au contact de la piété guyonienne que Fénelon édifie sa propre spiritualité. Il ne faut pas confondre Fénelon et Jeanne Guyon. Jeanne lisait beaucoup, Fénelon lit beaucoup moins. Mais par exemple, Jeanne et Fénelon ont en commun la lecture de Jean de la Croix. Et la lecture de Jean de la Croix, il faut bien se rappeler que Jean de la Croix était classé que parmi les illuminés, les Umbras, a été condamné, etc. Donc, il est clair que le passage de la nuit, la situation de mystique de la nuit, qui est une situation, évidemment, de non-vision, puisqu'il fait nuit, on n'y voit rien, correspond à un certain nombre de choses que l'on trouve chez Jeanne Guyon. Fénelon est beaucoup plus prudent. D'abord, il parcourt distraitement les longs commentaires doctrinaux que Madame Guyon lui envoie tous les mois. Leur correspondance, néanmoins, constitue un corps de doctrine, déjà, et on sent, de la part de Fénelon, théologien, un souci de la terminologie. Il est très attentif à dire comment est-ce qu'on va appeler ça. Alors que Jeanne ne s'occupait pas beaucoup de ces questions, même si elle avait plus de lecture que ce que l'on croit. Alors, l'été 91, Madame de Maintenon, qui était entrée tout à fait en grande amitié avec Madame Guyon, d'autant plus que Madame Guyon était de veuve et d'une famille de grande bourgeoisie, son défunt mari, beaucoup plus âgé qu'elle, avait gagné plein de sous dans le canal de Briard, etc. Donc c'était une famille de la grande bourgeoisie. Et Madame de Maintenon avait pris comme familiarité Madame Guyon. Et Madame de Menton était très occupée par Saint-Cyr, par la fondation des jeunes filles. Elle était très occupée aussi par le roi, et elle était très soucieuse de ne rien faire qui puisse lui faire perdre son rang auprès du monarque. Et donc, dès que les accusations commencent à pointer contre Jeanne Guyon, elle la vire. On a ça, plein d'exemples contemporains. Dès que ça commence à sentir roussi pour un collaborateur, sans s'occuper de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, pof, on le renvoie. Et alors, les jansénistes, les augustiniens, ce qu'on voudra, rejoignent d'ailleurs les jésuites et sont très inquiets, eux aussi, de ce type de... Il y a l'antimystique par nature, c'est Pierre Nicole, l'antimystique par nature. Même si avec la demoiselle Rose, bon, il y a d'autres choses là-dessus. Mais alors, on peut résumer la situation en 1689, c'est dans les Nouvelles Ecclésiastiques, un canard janséniste. Les ignorants et les malins sont accoutumés à taxer de jansénisme autrefois et maintenant de quiétisme à tort et à travers tous ceux contre qui ils ne savent que dire en particulier. À la même époque, on disait un janséniste, c'est quelqu'un qu'on veut perdre à la cour. Alors, des rivalités intérieures à Saint-Cyr, les pressions des intérêts de cour, la crainte qu'une excessive dévotion faisait peser sur une institution destinée à former des jeunes filles à marier. Et la grande terreur, c'était s'ils voulaient tous aller au couvent, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est raté. Saint-Cyr, c'était, je ne ferai pas de parallèle avec des institutions catholiques privées actuelles, mais un endroit où l'on... Il y avait on élevait des jeunes filles très bien qui allaient faire de beaux mariages, voilà, et être de bonnes épouses, de bonnes mères de famille, tout à fait. Et donc, la peur de pousser vers des formes de piété des jeunes filles pour une cour qui était dévote, mais qui était brillante. Nous sommes en 95-98, donc la cour tourne à la dévotion, mais le roi continue à vouloir briller, etc. Alors ensuite, après le vieillissement du roi, et de maintenant, 1703-1704, bon, puis il va y avoir les décès après, donc le crépuscule, le crépuscule jusqu'à la nuit de 1715. Bon, mais là, c'est ce qui conduit Madame de Maintenon à écarter Madame Guyon de Saint-Cyr. Alors, un arbitrage de Bossuet, bon, là encore, on a montré qu'il y avait une rivalité personnelle entre Bossuet et Fénelon, et de clans aussi autour du duc de Bourgogne, autour il y avait un clan dévot, disons, avec Fénelon, les ducs Beauvilliers, et puis, du côté de Fénelon, de Bossuet, une vision plus mondaine, disons, ou plus utilitaire de l'éducation du dauphin. Alors, une commission ecclésiastique se réunit en 94 pour étudier les écrits de Jeanne Guyon. Elle se réunit à Issy-les-Moulineaux, donc on va parler des articles d'Issy qui sont établis. Fénelon, Jeanne Guyon fournissent d'amples justifications au commissaire, où il y a Bossuet, l'évêque de Châlons, Noailles, futur archevêque de Paris, M. Tronçon, supérieur de Saint-Sulpice, et on intervient pour établir un accord, une sorte de protocole d'accord de 34 articles, les articles d'ici, ce qui évite la condamnation des écrits de Jeanne Guyon et ce qui donne le siège de Cambrai à Fénelon. Alors, les articles d'ici sont le seul document positif de toute l'histoire du quiétisme. L'amour pur y est présenté avec faveur, mais des bornes strictes sont posées et toutes les dérives sont exposées. C'est un beau texte, ce texte des articles d'ici. Alors, comme vous le savez certainement, Fénelon a entrepris de commenter ces articles, ce sont les explications des maximes des saints sur la vie intérieure. Alors, c'est ce texte-là qui a été, autant les articles d'ici sont des articles de compromis et de consensus, autant les choses ont basculé avec les explications des maximes des saints. Alors, il s'agissait pour Fénelon de commenter, de gloser les articles. Pour, encore une fois, pour les articles, il avait fourni des justifications abondantes, des textes d'auteurs patristiques médiévaux, pour abonder dans le sens de ce type de piété. Et donc il a réutilisé ces documents et il a voulu les utiliser pour gloser, disons, expliquer les articles d'ici. Alors, l'erreur a été d'écouter les conseils de Noailles, un personnage étrange, l'archevêque de Paris, cardinal Noailles, qui a toute une histoire compliquée, qui lui a dit que, on voit très bien d'ailleurs que pour que son livre soit plus percutant, pour qu'il ait plus de public, il fallait qu'il ne mette pas tous ses dossiers, toutes ses justifications, il fallait qu'il aille à l'essentiel, l'explication des maximes, sans laisser les abondants documents, les pièces annexes, qui justifiaient ce qu'il avançait. Et ça, ça a été l'erreur fatale, puisqu'il a abandonné les témoignages qui auraient appuyé ce qu'il disait dans les maximes. Alors, en effet, de l'autre côté, Bossuet s'était mis à rédiger une grande instruction sur les états d'oraison, qui paraissent un mois ou deux après les maximes de Fénelon. Et à ce moment-là, l'histoire est assez compliquée, il y a un gros bouquin sur cet aspect précis de l'affaire, Fénelon décide de porter l'affaire à Rome. Alors, comme vous le savez, je ne vais pas vous faire un topo sur les articles de 82, le gallicanisme, etc. Arnaud porte l'affaire à Rome. Il y a une permanence de Port-Royal à Rome, il y a des agents de Port-Royal à Rome. Bon, c'était un moyen. Alors, la France essaie d'envoyer aussi des agents, d'acheter quelques cardinaux, etc. C'est un processus difficile parce que et la cour de Rome joue un équilibre, évidemment, au chat et à la souris, donnant. Si je condamne, qu'est-ce que tu vas me donner ? Est-ce que tu vas renoncer à la régale, c'est-à-dire la perception des annates lorsque un diocèse était vacant, les revenus allaient à Rome, Louis XIV décide que ça irait au roi, donc ça déplaît à Rome, évidemment. Il y a tout ce jeu très, très complexe, qui a été très bien étudié, entre autres par Bruno Neveu, le pape Innocent XII n'a aucune envie de condamner les maximes. Alors finalement, la commission établit une liste de 23 propositions extraites des maximes sur une longue liste que Bossuet leur avait envoyée. Et le roi aurait voulu, lui, reprendre des articles d'ici. Les articles, c'est un texte très intéressant. Ici, ce sont vraiment des canons de la vie spirituelle. Mais on ne le suit pas. Et donc, le pape réussit à faire deux choses. À éviter que le mot hérésie soit employé, donc il n'y a pas eu de condamnation comme hérésie. Et surtout, la grande astuce du pape était de résister et de faire un bref, le bref cum alias. Alors, il faut savoir qu'un bref, motu proprio, c'est le plus bas degré de la législation pontificale, le motu proprio. C'est un peu au niveau d'une circulaire ministérielle. C'est même pas au niveau du décret, si vous voulez. Alors, l'avantage, c'est que les motu proprio, les brefs, n'étaient pas reçus en France. Innocent XII accepte, cède sur dire on va condamner sans nommer Fénelon, on va condamner ses propositions, mais on ne va pas les taxer d'hérésie, on va dire qu'elles sont proches à l'hérésie, elles chantent l'hérésie, etc. Mais vous savez, il y a les degrés, il y a les notes, le plus bas degré, par exemple, c'est pis auribus offensi, une proposition qui est offensive aux oreilles pies. Voilà. Lorsque Montaigne dit le pape machin est mort au bordel, on dit c'est une proposition offensive aux oreilles pies. Parce que c'est vrai, donc on ne peut pas dire que c'est faux. Mais il ne faut pas le dire, voilà, ça ne se dit pas. Voyez. Donc j'ai étudié les problèmes de la condamnation des essais, enfin bon, tout ça. Alors, le pape choisit de ne pas taxer d'hérésie, important, et deuxièmement, de publier un bref, le plus bas niveau de la jurisprudence romaine, pontificale. Alors, la soumission de Fénelon, totale, l'élection quelques mois plus tard, la mort d'Innocent XII, l'élection de Clément XII, le cardinal Albani, qui était un protecteur de Fénelon, des retournements de faveur. Albani veut nommer Fénelon cardinal, Fénelon meurt à ce moment-là, mais ça ne doit pas dissimuler que, avec le bref, cum alias, ce troisième document romain, le rapport d'Albizzi, Gelesi Pastor, et puis le bref, cum alias, conclut un peu l'histoire de ce qu'on appelait le quiétisme, qui est un peu un fantôme, et surtout, ça marque ce que l'abbé Cognet a appelé, dans un beau terme, le crépuscule des mystiques. Parce que dans la suite, en particulier au XVIIIe siècle, on ressortira ces documents pour condamner toute tendance qui ne va pas dans le sens dominant d'une pratique ascétique discursive. Alors, d'une part, on peut se demander s'il s'agit du même mouvement, si ces trois moments se reflètent des attaques contre le même mouvement. Je ne crois pas qu'il y ait une unité du quiétisme, il n'y a pas une généalogie du quiétisme, il y a eu des tendances diverses, hétéroclites. La scriptura de Degli Albizzi dénonçait des groupes sectaires, les accusant de pratiques contraire à la discipline de l'Église et aux bonnes mœurs. L'accusation de substituer l'oraison aux pratiques ouvre un espace d'hérésie proche du protestantisme, mais ça n'a plus été le cas dans les autres accusations qui ont suivi contre Molinos et contre Fénelon. La condamnation de Fénelon, de Molinos, a reposé surtout sur les griefs moraux. On a surtout attaqué Molinos sur des conditions de pratique où on l'a accusé même d'avoir des mauvaises relations avec ses pénitentes. Et puis enfin, c'est tout à fait différent dans le débat autour des maximes des saints. Alors au fond, ce débat, et je vais conclure là-dessus, ça fait une heure que je parle, c'est une construction systématique de la contemplation active. Elle doit avoir une part dans la spiritualité catholique, mais est-elle ou non répétable? Situe-t-elle l'âme dans un état permanent où les plus parfaits n'ont plus rien à mériter? Et sinon, comment peut-elle être dite acquise? Quel rôle les dons du Saint-Esprit peuvent-ils tenir dans un tel comportement spirituel? Comportement a-t-il encore besoin des dons de l'Esprit-Saint qui nous sont toujours nécessaires? Et en tout cas, moi, ce que je retiens de la guide spirituelle, c'est qu'il y a, en tout cas, au livre, en particulier dans le premier livre, plus un souci personnel de présentation et de direction qu'un souci d'orthodoxie, pour le coup, dogmatique. Alors, les traits qui rapproche Madame Guyon de ce mouvement, mais ces traits sont communs aux grands mystiques du siècle. La pratique de l'abandon, le cas extrême du père Surin, le jésuite, la dévotion à l'enfant Jésus, très importante, l'enfant Jésus de Prague, mais très importante dans toute la spiritualité catholique du XVIIe siècle, avec un relief. Et donc, Madame Guyon prend place parmi ces âmes mystiques avec un relief plus grand dû à son influence, à l'hostilité rencontrée en raison de sa familiarité avec Madame de Maintenon, et puis l'imbroglio politico-policier, je vous en passe, dont elle fut l'objet. Et cum alias, enfin, condamne moins la théologie mystique de Fénelon que l'anthropologie implicite qu'elle sous-tend. Fénelon distingue la partie supérieure de l'âme d'une partie inférieure, et donc là, cette distinction brise l'unité que les théologiens, aussi bien augustiniens que thomistes, reconnaissaient dans la volonté qui me porte vers Dieu sans jamais cesser d'être mienne. Alors, Fénelon maintient une position dualiste entre ces deux volontés, la mienne et celle de Dieu qui agit en moi, et il est clair qu'il y avait là un réel problème. Alors, on a beaucoup étudié, je conclus là-dessus, la postérité du quiétisme construite autour de la condamnation et d'une filiation établie a posteriori entre ces trois moments. De même qu'on établit des filiations entre Jean Hus, si vous voulez, et les réformes. Bon, mais tout ça, c'est artificiel. Mais on a tendance, l'historiographie a tendance, aime bien les généalogies. Donc on essaie de faire des grandes généalogies. Mais ça ne résiste pas à une véritable étude. Alors, le quiétisme fait figure d'école par le biais d'auteurs protestants. Jeanne Guyon réunit à Blois autour d'elle des anglicans, Ramsay, et la Bible de Bernburg reprend les commentaires bibliques de Madame Guyon, le livre de Gottfried Arnold, Une bataille de Kirchenkette-History, publié en 1740. Chez Wesley, Wesley, grand lecteur de Madame Guyon, le Renewal méthodiste, il y a un grand roman historique de John Inglesant, dont l'auteur, Shorthouse, un Quaker anglais, retrouve la religion du cœur de Jeanne Guyon. Et puis enfin, il y a eu un grand renouveau de Jeanne Guyon, aussi bien chez l'historien que chez les romanciers, Françoise Malé-Joris, Madame Chalanagor, voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous présenter. Je crois que c'est un grand mouvement spirituel, avec des maladresses et un ensemble. Je crois que c'est très important de voir comment, ça c'est très clair aussi pour le jansénisme, comment une hérésie se construit à partir des condamnations. C'est ça qui construit. Les déviations sont toujours fluides, et ce qui les construit en hérésie, c'est le corpus qu'on va extraire et qu'on va condamner. Ça, c'est à ce moment-là que les choses se passent. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, est-ce qu'il y a, peut y avoir des questions, des objections ?
Merci. Ah, c'était passionnant. Vraiment passionnant, et les questions que vous avez bien soulevées au début, ça rejoint parfois nos interrogations sur la place à donner à l'Eucharistie, à l'oraison. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions ?
Des objections, j'attends les objections.
Vous avez l'expert.
Oui, oui. Bien sûr. Le crépuscule des mystiques, pour s'en tenir au christianisme, se produit aussi dans les églises de la Réforme. Donc le piétisme apparaît, pas confondre avec le quiétisme, mais le piétisme est une réaction, et il y a avec un décalage d'une vingtaine d'années, mais la condamnation, si vous voulez. Donc, effectivement, alors, c'est lié aussi, quand même, à la montée d'une nouvelle anthropologie, à la montée des Lumières, etc. Il y a tout un tas de choses qui se produisent. Ce n'est pas la crise de la conscience européenne. La crise de la conscience européenne, elle se produit un siècle avant ce que Paul Hazard a décrit. Hein. Mais il y a quand même, effectivement, les choses se passent dans la longue durée. C'est pour ça que le titre de Cogné, Le crépuscule des mystiques, bon, c'est effectivement. Il y a un discrédit. Alors oui, ça. Alors moi, j'ai étudié longuement Maria d'Agreda. J'ai publié pas mal de choses à l'heure actuelle sur Maria d'Agreda, qui est une religieuse espagnole. franciscaine conceptionniste, de la Immaculée Conception de la Vierge Marie, à Gréda, près de Saragosse, qui a passé toute sa vie, 1609-1670 à peu près, dans son couvent. Alors, elle a passé sa vie dans son couvent, mais elle a fait 500 apparitions au Mexique. Mais là aussi, j'ai étudié pas mal ça, la dame bleue, la dame bleue qui apparaissait au Mexique, aux Indiens, pendant une dizaine d'années. Et alors, il y a un franciscain qui l'a vue là-bas, qui est venu en Europe, qui dit « C'est elle, je l'ai vue il y a 6 mois. » Et elle décrivait... ça n'a pas plu du tout à l'Inquisition espagnole. On s'est hâté d'envoyer des commissaires pour examiner cette bonne sœur qui avait des phénomènes de bilocation. Ça n'a jamais plu. Il ne faut pas croire que les phénomènes, que l'Église ait raffolé des phénomènes préternaturels. Hein. Elle a toujours été extrêmement réservée là-dessus. Et c'est très étrange. J'ai lu les questionnaires. Elle décrit des lieux. C'est extrêmement étrange. Il est possible qu'elle étudie des récits aussi de voyageurs. Et alors, donc elle passe toute sa vie dans son couvent, dont elle est, à 16 ans, elle décide de devenir religieuse, elle transforme sa maison en monastère avec sa mère et sa sœur, son père et ses deux frères rentrent chez les franciscains. Bon. Donc c'est réglé, elle devient abbesse, et elle reste abbesse pendant 60 ans, sauf pendant 4 ans où justement elle est sous une enquête, et à ce moment-là, la Sainte Vierge lui apparaît tous les matins et lui dicte sa vie. De la Sainte Vierge. Et donc, lui dicte sa vie depuis la pensée du Père éternel avant la création du monde jusqu'au jugement dernier. Voilà. Alors, donc, c'est une très longue histoire. Ça s'appelle la cité mystique, la cité mystique, la mystique cité de Dieu, en espagnol. Donc ça n'a rien à voir avec Augustin, mais c'est un des titres de la Vierge dans la litanie de Lorette, cité mystique, ville mystique. Alors, donc, un de ses confesseurs lui demande de brûler tout ça, elle le fait, et puis elle renvoie le confesseur suivant lui dit « mais non, il ne fallait pas le brûler ». Donc elle reconstitue de mémoire les 3000 pages qu'elle avait écrites, et elle ne publie rien du tout. C'est à sa mort qu'on va publier la mystique cité de Dieu. Qui est un texte important, sa taille, je passe les détails, la Sorbonne la condamne, Fénelon, on retrouve là, on est dans les années 1695-1700, Fénelon, Bossuet la condamne encore plus, comme une cinglée, etc. Pendant ce temps-là, la monarchie espagnole pousse à sa béatification. Alors là, j'ai étudié les nombreux dossiers encore, les maîtres linéaires de dossiers. J'ai écrit des choses. Alors, je vois qu'on va essayer une autre fois, parce que je ne peux rien dire, parce que la cause est encore ouverte. Je suis sous le secret, la cause est encore ouverte, et je n'ai pas eu accès aux documents. Alors, c'est très drôle, parce que j'ai eu accès aux documents du Saint-Office, qui disent plein de choses mauvaises sur elle, et je n'ai pas eu accès aux documents de la Congrégation des Saints, où il y a au contraire la partie positive. Donc, je n'ai publié que la partie négative, ce qui fait que les sœurs d'Agreda ne m'aiment pas beaucoup pour ça, mais bon. Elles m'ont gentiment communiqué des tas de papiers. Et simplement, pour en terminer avec ça, Marie d'Agreda, son procès s'arrête à chaque fois. Et au XVIIIe siècle, elle est totalement... On ne veut plus entendre parler d'elle. Et alors, il y a le Monitum Benedictum de Benoît XIV qui dit... c'est une affaire d'État au sens strict, puisque le roi d'Espagne demande la canonisation et le roi d'Espagne dans leur oratoire ont une statue, etc. Bon. Donc ça crée une affaire d'État et les franciscains évidemment sont à la roue, poussent à la roue pour l'affaire béatifié, canonisé. Les dominicains qui tiennent les verrous du Saint-Office passent leur temps à fermer les verrous, et les franciscains passent par en dessous, par en dessus. Bon, écrivent au pape, le pape convoque le secrétaire du Saint-Office qui se prosterne à ses pieds, au moins dans les papiers, et qui revient vers la suprême en disant: le Saint-Père demande de sursoir à l'étude du document, bon, ainsi de suite. Alors Benoît XIV rédige ce qu'on appelle l'interdictum benedictum, qui est un texte dans lequel il dit: il ne faut plus parler de ça. Mais alors il le scelle et il le dépose au château Saint-Ange, ça ne peut être ouvert que par un pape. Alors il meurt, son successeur se hâte de l'ouvrir, évidemment, et puis alors ça ressort, je vous passe les détails. Le cardinal Amato, qui était encore préfet il y a une quinzaine d'années, a ressorti l'affaire parce que maintenant elle apparaissait dans un terrain pétrolifère au New Texas. Et là, ce sont des Indiens maintenant qui ont des champs de pétrole et pour qui elle est une sainte. Et donc, il y a un fort lobby auprès du Saint-Siège pour passer à la béatification de cette sainte femme. J'ai fait un rapport, je ne vous dirai pas ce que j'ai écrit dans mon rapport. Mais non, tout ça pour dire qu'au XVIIIe siècle, il y a un grand mouvement. Alors, la même chose vaut, je ne vais pas encore vous raconter ça, mais sur Dominique de Jésus-Marie. Dominique de Jésus-Marie, le petit Carme, qui a la bataille de la Montagne Blanche, qui a insulté les généraux, qui est parti, qui est monté, qui a retroussé sa soutane, qui est monté sur un cheval, et qui, en brandissant l'icône dont les yeux avaient été troués par les scélérats qui étaient en face, les armées impériales, réveille les troupes en disant: on y va à l'assaut. Alors, comme c'était la trêve et que les autres troupiers de l'autre côté, ils ont tous été virés, tués, envoyés dans la Moldave, et Prague a été libérée, pour la grande joie des Juifs qui étaient opprimés par les impériaux et qui ont célébré la victoire catholique, et qui, pendant des années, ont célébré la victoire catholique de la libération de Prague. Eh bien, ce bon frère, pour des raisons que je ne vais pas vous raconter maintenant, sa cause a été interrompue parce qu'il avait des visions, il avait des trucs, et au XVIIIe siècle, on n'en parle plus, on en fait. Mais quand j'ai essayé de faire sortir ce dossier, puisque le procès est fini, on m'a amené un paquet ficelé, on m'a dit: non, on ne peut pas vous le montrer, il est ficelé, on l'a emporté, pas question de savoir ce qu'il y a dedans. Alors, en plus de ça, j'ai trouvé des copies que le cardinal Passionnet avait prises. Bon. Bref, donc effectivement, il y a quand même au XVIIIe siècle, pour des tas de raisons, un blocage. Alors, ce n'est pas la mort de la spiritualité, puisqu'il y a le revival de Wesley, et la spiritualité redémarre, si j'ose dire, en Angleterre et aux États-Unis, avec le méthodisme.
Je vois que leur avance,
oui, leur avance, il est...
se restaurer avant le couvre-feu,
oui.
Pour se séparer à 20h30. Le roi Pau-Prince, ils ont préparé quelque chose.
Super, très bien.
Alors,
après
la fois, il y aura un moment, quasiment. Merci encore.
Merci.